Une politique en deux temps. Un déplacement hier en Auvergne sur le thème de l'égalité des chances pour permettre à chacun, et notamment aux jeunes, de trouver sa place dans la société. Et un séminaire gouvernemental aujourd'hui sur l'insécurité, qui est souvent un symptôme, a déclaré le chef de l'État. Alors la question des moyens sera bien sûr au cœur de ce séminaire pour lutter notamment contre les trafics de drogue. Les policiers, Emmanuel Leclerc, attendent aussi plus de soutien.
Les policiers ont bien noté qu'il faudrait désormais plus de résultats, plus d'arrestations de jeunes délinquants très durs, employés par les mafias des stupes. Mais pour Yannick Biancheri, le délégué d'Alliance Police dans l'Isère, il faudra, dans ces cas-là, accorder certains violons du côté du gouvernement.
On avait espoir qu'il y ait un binôme, un vrai binôme, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, qui parle d'une seule voix. Là, le problème, c'est qu'ils parlent chacun, mais pas ensemble et à l'opposé.
Pour Sabrina Rigollet, la numéro 2 du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, les participants à ce séminaire intergouvernemental devraient également bien réfléchir à cette exigence de résultats quand on parle de l'action de la police.
Ça ne doit pas être l'ère du sarcomètre, faire des comparaisons statistiques fortes sur certains secteurs et une concurrence entre les services pour répondre à une demande politique.
Des policiers et des gendarmes qui ne cachent plus qu'ils se sentent souvent très seuls dans les quartiers périphériques des grandes et moyennes métropoles, face aux plus durs des jeunes délinquants biberonnés aux revenus des trafics de drogue.
Un séminaire gouvernemental qui se tiendra dans la foulée du Conseil des ministres, tous deux en visioconférence. Jean Castex a été testé négatif hier, mais il est à l'isolement pour 7 jours, après avoir côtoyé le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, lui-même testé positif hier. Autre conséquence du regain de l'épidémie de Covid en France, la session du Parlement européen prévue la semaine prochaine à Strasbourg se tiendra à Bruxelles, le département du Bas-Rhin ayant été classé en zone rouge. Un coup dur pour la capitale alsacienne, ses hôteliers et ses commerçants. D'autant qu'après un été réussi, le secteur du tourisme s'inquiète d'un automne très en retrait. Philippe Lefebvre.
Nombre de professionnels du tourisme le reconnaissent bien volontiers. Ils ne s'attendaient pas à un été sur fond de Covid-19 aussi bon. C'est le cas de Pierre-Louis Roucariès, le directeur de l'Office du tourisme de Mandelieu-lès-Napoule.
On pensait effectivement sauver la saison estivale, hein, mais avoir un niveau supérieur de remplissage que l'année 2019, plus 2 en juillet, plus 6 en août, c'est absolument surprenant.
Malheureusement, depuis quelques jours, on constate également la fin de cette parenthèse enchantée. Les touristes de septembre sont aux abonnés absents dans la plupart des régions, reconnaît Didier Arino, le directeur du cabinet ProTourisme.
On a vu une chute considérable des réservations, à la fois des clientèles loisirs et des clientèles affaires. Pour la plupart des destinations, on peut s'attendre à une chute entre 20 et 40% pour l'automne. Et surtout, aujourd'hui, nous avons plus d'annulations que de réservations.
Plus grave encore à Paris, c'est la clientèle d'affaires qui manque le plus. Une clientèle qui représente à elle seule 50% du chiffre d'affaires du tourisme dans la capitale. Une situation qui pourrait avoir des conséquences désastreuses, selon Éric Jeunemaître, le président du comité du tourisme d'Île-de-France.
Je crains en effet qu'à Paris intramuros, il y ait à peu près 20% d'hôteliers indépendants en faillite.
Et pour répondre à cette situation, le dispositif de chômage partiel dans le secteur du tourisme pourrait être prolongé au-delà du 31 décembre.
Pour désengorger les laboratoires dépassés par les demandes de tests, 20 nouveaux centres de dépistage vont être installés en Île-de-France d'ici la fin du mois. 6500 nouvelles contaminations et 91 nouveaux foyers recensés au cours des dernières 24 heures. Le taux de positivité des tests continue de progresser lentement. Il est aujourd'hui à 5,2%. Des chiffres en hausse également dans le monde, avec près de 900 000 morts depuis le début de l'épidémie. Et la situation est particulièrement préoccupante en Inde, qui enregistre depuis un mois, des records mondiaux de contamination au quotidien. Plus de 75 000 cas recensés pour la seule journée d'hier. Reportage à Bangalore, mégalopole du sud du pays, de Com Bastien.
Dans les couloirs du grand hôpital Jain de Bangalore, le docteur Shada est inquiet. Le nombre de personnes infectées ne cesse d'augmenter.
Depuis deux mois, les patients sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, presque tous nos 40 lits équipés de respirateurs sont occupés. Nous essayons d'ouvrir un deuxième bloc pour les malades. Ça m'inquiète parce que nous n'avons même pas encore atteint le pic de l'épidémie.
Directeur du bloc de soins intensifs Covid-19, le docteur Farouk se veut plus rassurant par téléphone. Les hôpitaux ne sont pas débordés, notamment parce que le gouvernement a récemment autorisé la quarantaine à domicile pour les cas les moins graves.
C'est vrai qu'on a de plus en plus de malades, mais le taux de mortalité à Bangalore est à la baisse. Il est aujourd'hui de 1,4% et 80% des patients que nous recevons sont asymptomatiques. Nous les renvoyons en quarantaine chez eux.
Un nombre de cas qui explose, mais une mortalité faible. Ces observations se retrouvent dans toute l'Inde. La hausse devrait se poursuivre alors que métros, chantiers et bars sont à nouveau nouveau ouvert. Avec 4,3 millions de cas au moins, l'Inde est depuis dimanche le deuxième pays le plus infecté au monde devant le Brésil. À Bangalore, Combastin pour France Inter.
Et dans la course mondiale pour un vaccin, le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca a annoncé hier la suspension de son essai clinique après l'apparition d'une maladie encore inexpliquée chez l'un des participants à l'étude. L'Angleterre, qui à partir de lundi interdit tout rassemblement public ou privé de plus de 6 personnes, nous y reviendrons dans le journal de 8h.
Il est 7h07, Agnès. Le montant des fraudes aux prestations sociales est estimé à 1 milliard d'euros l'an dernier.
Le chiffre a été communiqué hier soir par la Cour des comptes, un chiffre en hausse par rapport à 2018 et encore sous-estimé selon le rapport de l'Assemblée nationale qui parle de 14 milliards d'euros de fraude. Alors, comment lutter contre ce phénomène? Élément de réponse avec Sarah Lemoine.
Les recommandations des deux rapports vont dans le même sens. Pour diminuer les risques de fraude, les contrôles doivent se faire avant le versement des prestations sociales et non après. En clair, vérifier que l'identité, la situation familiale, le nombre d'enfants, les ressources, le compte bancaire ou le nombre de mètres carrés déclarés correspondent bien à la réalité. Un changement d'échelle qui nécessite de renforcer les contrôles sur place et donc le nombre d'agents dédiés à la lutte contre les fraudes. L'autre enjeu, c'est de pouvoir recouper les informations, car aujourd'hui, les organismes sociaux ne partagent pas toutes leurs données et ils n'ont pas forcément accès à celles détenues par les administrations d'État, par exemple avec les services de police judiciaire, hein, pour lutter spécifiquement contre les fraudes organisées. Enfin, la Cour des comptes et l'Assemblée nationale recommandent de dématérialiser l'ensemble des cartes vitales et les ordonnances médicales.
Ils attendent depuis un an le lancement de l'expérimentation du cannabis thérapeutique en France. L'agence du médicament a donné son feu vert, mais le décret se fait toujours attendre, d'où cette tribune publiée dans Le Parisien ce matin, signé par une cinquantaine de personnes, médecins et patients. Véronique Julia.
Certes, il y a eu le Covid. On peut penser que dans le contexte, le cannabis médical n'apparaisse plus comme une priorité pour le gouvernement. Mais le décret est prêt et pendant des mois. Malgré le confinement, le comité d'experts n'a pas chômé pour finaliser toute la mise en œuvre de l'expérimentation. Dès lors, pourquoi attendre? Et pourquoi n'a-t-on pas encore alloué le moindre euro au financement de l'opération s'impatiente Nicolas Autier, pharmacologue, il préside le comité d'experts sur le cannabis thérapeutique.
On n'arrive pas à comprendre ce qui bloque. On se demande si il n'y a pas aussi des lobbyings qui retardent cette expérimentation avec l'arrière-pensée de vouloir produire les fameux médicaments à base de cannabis made in France.
La déception est d'autant plus grande que le ministre de la Santé, Olivier Véran, était un ardent défenseur du dossier. Sans décret pour l'instant, difficile d'imaginer que l'expérimentation verra le jour au mois de janvier prochain, comme l'espéraient ses promoteurs. Pour les milliers de malades qui ne sont pas soulagés par les traitements traditionnels et qui doivent par tous les moyens se procurer illégalement aujourd'hui du cannabis, l'attente devient pénible. C'est le cas de Marie-Madeleine. Elle souffre d'une maladie rare qui lui fait endurer des douleurs neuropathiques insupportables.
L'alternative, c'est d'aller en acheter en Hollande. Et puis après, il y a l'autoculture. Vous savez, quand les gens ont mal, ils sont prêts à tout. Hein. Il faut savoir que les douleurs neuropathiques, ça ressemble à sauter dans un champ d'ortie tous les jours.
L'expérimentation prévue doit porter sur 3000 patients environ souffrant de cancer, de douleurs chroniques ou d'épilepsie résistante.
C'est une tendance de fond avec des records enregistrés à Paris ces derniers jours. 2000 cyclistes par heure, boulevard de Sébastopol en fin de journée. Les vendeurs, réparateurs, loueurs de longue durée n'arrivent pas à faire face à la demande. De quoi aiguiser l'appétit des spécialistes européens du vélo et hollandais. Le service néerlandais Swapfiets vient donc d'ouvrir une boutique dans la capitale. Mathilde Huimy.
Dias est l'un des premiers abonnés.
Je peux la rabaisser, hein.
Réglage de la selle, fonctionnement du frein par rétropédalage. Le reste se passe sur Internet. 20 euros par mois, le vélo est fourni sans engagement. Un bon compromis pour Dias, étudiant de passage.
Je serai ici seulement pour 5 mois, alors c'est plus facile de les faire, que chercher un vélo et après les vendre. Et les prix, ça marche pour moi.
Deux amis s'arrêtent devant les vélos à roues bleues de la vitrine, qui leur rappellent leur stage à Berlin, raconte Manon.
Moi, je l'avais utilisé pendant 6 mois. Si vous avez un problème avec votre pneu, moi, ce qui m'était arrivé, je l'avais ramené. Il m'avait changé mon vélo, il m'en avait donné un autre.
Le service fournit les réparations à domicile sous 48 heures. Pas de quoi convaincre Chloé, désormais installée à Paris.
Non, ça m'embêterait de payer aussi un abonnement, honnêtement, sachant que je préfère investir et avoir le mien à la fin.
Propriétaire ou locataire de vélo, le principal problème des Parisiens reste le vol. Swapfiets fournit 2 antivols, explique le responsable Naofel Alabassi.
Si l'abonné se fait voler son vélo, il aura une petite franchise à payer puis récupérer un nouveau vélo. Il y a du vol dans toutes les villes européennes, mais je ne pense pas que Paris sera une ville où on aura plus de vols qu'ailleurs.
Swapfiets ne communique pas le nombre actuel d'abonnés parisiens, vise les 1500 à la fin de l'année. La société hollandaise compte 200 000 abonnés européens.
Et qui dit vélo dit Tour de France, 11e étape aujourd'hui, 160 67 km entre Châtelaillon et Poitiers. Victoire d'étape hier pour l'Irlandais Bennett. Le Slovène Roglic est toujours en jaune. Et puis contrat rempli pour les Bleus qui signent une deuxième victoire en deux matchs en Ligue des Nations. L'équipe de France a battu la Croatie 4-2 hier soir dans un stade de France totalement vide. On retiendra de cette rencontre, Alexandre Vaux, la mise en orbite de jeunes talents.
L'équipe de France ne s'était pas réunie depuis près de 10 mois. Alors forcément, les Bleus ont dû retrouver leur marque avec des états de forme différents suite au confinement et dans un système de jeu, le 3-5-2, innovant. Les joueurs nous ont parfois fait peur, mais de là à dire que le bilan est flatteur, le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, n'est pas d'accord.
Non, flatteur, je pense pas, parce qu'on est allé la chercher, cette victoire, dans la douleur, grâce à notre état d'esprit, ça avait été le cas également en Suède, mais surtout grâce à notre talent.
À l'image d'Antoine Griezmann, qui a retrouvé hier son influence sur le jeu et marqué son 31e but en bleu, égalisant au passage le total d'un certain Zinedine Zidane. Olivier Giroud a aussi marqué, mais reconnaît que le chemin est encore long jusqu'à l'Euro en juin prochain.
Dans le contenu, on peut toujours mieux faire, on le sait, on est lucide, hein, mais encore une fois, deux matchs de reprise, on savait qu'on n'allait pas être au top de notre forme, donc je dirais qu'on a assuré l'essentiel.
En donnant aussi du temps de jeu à des joueurs en devenir, comme le milieu de terrain du Stade Rennais, Eduardo Camavinga, qui est devenu hier, à 17 ans et même pas 10 mois, le plus jeune sélectionné depuis 45.
Et prochain match pour les Bleus, le 11 octobre, face au Portugal de Cristiano Ronaldo, qui compte 101 buts au compteur.
Merci Agnès Soubiran.